n'apprenez rien si je vous dis que c'est lui qui a fondé les moines cisterciens, les moines trappistes, et toutes ces églises qui ont été construites, tous ces monastères. Quand il arrivait dans un village ou une ville, les gens savaient que Saint Bernard allait passer. Et il marchait. Qu'est-ce qu'il a voyagé? De Clairvaux à Rome, de Rome à Espagne, de l'Espagne, là-bas en Allemagne. Et partout où il passait, vous savez, les gens étaient prévenus, bien sûr. Alors les mères de famille et les épouses prenaient leurs fils et leurs maris et les enfermaient. Elles les enfermaient parce que sinon, ils se faisaient moines. Quand ils rentraient dans une maison, enfin une église, peu importe, un cloître, ils cherchaient la statue de la Vierge. Et puis, ils disaient « Je vous salue Marie » et invariablement et à chaque fois, la Vierge baissait la tête et disait « Je vous salue » et on l'entendait dire « Je vous salue Bernard ». Et à propos de Marie, il disait « On n'en dit jamais » Non quam satis, jamais, on n'en dit jamais assez sur Marie. Et 1153. Et faut voir ce que c'est, hein. C'est centaines de millions même de jeunes gens qui sont rentrés être trappistes, c'est incroyable. Tu rentres là à 18 ans, hein, à 15 ans, et puis l'office, la règle de Saint-Benoît, le travail, et puis c'était des experts du travail. Le silence total, ne parlait jamais, ni le jour, ni la nuit. Ils dormaient ensemble dans un dortoir. La messe, le silence, le travail, jusqu'à la mort. Et c'est eux qui ont fait les églises gothiques, quand vous allez à Sénanque, quand vous allez au Toronnet, ils en ont fait comme ça, je sais pas moi. Ça a couvert l'Europe. Et les cisterciens aussi, les cisterciens, moi, j'ai fait mon novissage chez les cisterciens. Pas un mot. Jamais. Le dimanche, exceptionnellement. Un petit moment, c'est tout. Toute leur vie, là, ces moines sont en blanc. Là. Toute leur vie. Et les abbatiales qu'ils ont construites avaient ceci de commun, c'est qu'elles étaient parfaites. Elles étaient parfaites. De sorte que quand tu te mets, par exemple, à la porte d'entrée, quand le prêtre va prêcher, bon, il se met là, devant l'abside, et quand il prêche, les sons vont dans toutes les absides, dans tous les machins, et arrivent, comme s'il te parlait face à face. Quand j'allais célébrer la messe là-bas à Sénanque, par exemple, c'était impressionnant, je me mettais avec des amis là, à l'entrée. Et puis on voyait, il y a toujours des touristes qui sont là. Et puis quand ils arrivent dans le cœur, comme visiteuse d'église, ça va où. Et quand ils étaient dans le cœur, ils étaient là. Alors, je disais à mes amis, regardez-les bien ce lac, ils sont là-bas, au fond, là-bas. Regardez-les bien. Et puis je faisais comme ça. Je suis le Seigneur. Arrête-toi. Lève les yeux vers le ciel. J'ai un message pour toi. Vous voyez ? C'est l'acoustique parfaite. Tout ce que font ces trappistes, ces cisterciens, c'est parfait. Et puis le silence total jusqu'à la mort. Pas un mot. Écrit dans l'évangile qu'on aura à rendre compte de chaque parole inutile. Avec les trappistes et les cisterciens, le compte sera très vite fait. Absolument parfait. Alors là, quand on allait à l'Airain, c'était impressionnant quand même, vous voyez, ces 40-50 moines qui étaient là depuis 50, 60, 70 ans. Toujours à genoux. On entendait leur voix juste pour s'élever à Regina à la fin de l'office de Compli. C'est à Saint-Bernard qu'on doit le s'élever à Regina, vous savez ça. Et on peut dire que il a changé, mais totalement, le visage de... Mais totalement, le visage de l'Europe. Un silence s'est fait. Et le Moyen-Âge a pu commencer. Moyen-Âge chrétien, la chrétienté. Alors les moines ont fait une harmonie dans les champs, les forêts, dans l'agriculture, dans l'architecture. Les cathédrales ont commencé à pousser partout. Ça a l'air de rien, mais Saint-Bernard. Alors qu'on est là, derrière ces moines qui sont là, qu'est-ce que vous voulez, on court derrière eux autant qu'on peut, quoi. C'est lui qui a fait faire un concile pour lire toutes les visions de Saint-Hildegarde, hein, qui était sa contemporaine. Il avait été la voir, il avait dit, tiens, Dieu parle à notre siècle. Alors, toujours Saint Benoît et Saint Scolastique, Saint François et Saint Euclair, fondatrice des Clarisses, franciscaines, etc. Saint Bruno et Sainte Roseline pour l'ordre des Chartreux. Saint François de Sales, Sainte Jeanne de Françoise de Chantal pour la visite. Les monastères, les couvents de la Visitation. Et pour Saint-Bernard, il n'y a pas d'équivalent. C'est pourquoi c'est Saint-Hildegarde, en fait. Il est spécial pour les temps, spécialement indiqué pour le cri silencieux de la fin des temps. Un cri silencieux, marial, transverbé. Le verbe est devenu chair en elle. Et il crie silencieusement en elle. Ça, c'est Saint-Bernard. C'est pour ça que ça va ensemble. Ça se marie très bien avec l'Apocalypse de Saint-Hildegarde. On va demander pardon. parce que ça gesticule dans notre tête, ça gesticule dans nos... pour du vent. Il est connu aussi à cause. On connaît, on parle de lui. D'habitude, souvent, c'est ça. Parce qu'il a prêché la croisade pour Jérusalem, Bethléem. Ça l'avait impressionné de voir ces 200 000 enfants faire la croisade à l'époque de Saint-Pierre l'Ermite. Ils sont partis, les enfants, à Jérusalem. Pour rendre hommage. Ils sont partis faire la croisade de Clermont-Ferrand. Hein. Et presque pacifiquement, on peut dire, presque comme des non-violents. Il y a des films bouleversants qui sont sortis là-dessus. Et une fois arrivés là-bas, ils les ont bien sûr tous massacrés.
Ils ont fait massacrer, oui.
Hein?
Ils sont fait massacrer.
Ouais, tous fait massacrer. Et Saint Bernard avait été impressionné par ça. Le cri silencieux des enfants dans le sanctuaire. À Nazareth. Et à Golgotha. Ça l'avait impressionné beaucoup. Elle a prêché la croisade pour lui. Ben, le modèle de la croisade, c'était ses enfants. La croisade, c'était nécessairement un pèlerinage de paix, de non-violence. Et c'était un peu les soldats de la paix qui allaient à Jérusalem, à Nazareth. Hein, et vous savez comme moi, bien sûr, que c'est de cette à sa prière. La maison de Nazareth a été transportée par les anges. Sur les bords de la mer Gaspienne. En trois étapes en plus. Et se retrouve à Notre-Dame, à Loreto en Italie. Notre-Dame de Lorette. Ce transport silencieux de la maison de Nazareth, c'est les croisades de Saint Bernard, c'est à sa prière. Hein. Quand vous rentrez dans la maison de Nazareth, à Lorette, dans Saint Bernard, c'est quand même quelqu'un, c'est vrai. Eh oui, parce que toute la chrétienté s'attendait, voilà, on arrive à l'an 1000, ça y est, c'est la fin de la Bible, c'est maintenant la fin du monde, la fin du temps, l'ouverture des derniers sauts de l'Apocalypse, tout ça, ça y est, c'est maintenant. Tu penses, bah non, hein, donc, ah oui, mais il faut attendre l'an 1000. L'an 1030, puis après, ah non, bah faut attendre l'an 1090, c'est vrai, pas 90, mais c'était en 90 que Jérusalem a été entièrement, ah ben non, toujours rien, alors du coup, ben il est né, et il est né à ce moment-là, et puis il est mort en 1153, il est dit, je vous en prie, mettez donc cet appareil. Et il est cette espèce de voix qui crie dans le désert, mais non, les 1000 ans, c'est pas maintenant. C'est pas maintenant. C'est la colonne, il a mis la concorde, il a réussi à mettre une concorde dans tout l'univers connu. Il y a eu un respect des musulmans vis-à-vis de la chrétienté. presque une admiration. Il a mis la concorde dans toute l'église, le Rome, les querelles se sont dissipées. Rien que par sa présence, je me dis, en allant là. La terre a elle-même donné beaucoup de fruits. Les cathédrales ont poussé partout. À son époque, c'était le roman. Hein. Et oui.
La deuxième, déjà le début du gothique.
À son époque, le gothique est venu après, lui. Ouais. Les racines chrétiennes de l'Europe, les racines chrétiennes de la France, c'est Saint Bernard. Alors en même temps, c'est un prophète. Hein, c'est de lui que on sait qu'il doit y avoir. Et c'est pour ça que c'est facile de se rappeler la date. Lui, c'est 1111. Voilà, c'est pas compliqué. 1111. Et puis mort en 1153. 1000 plus 153. L'Immaculée Conception et l'Église dans son accomplissement. Associé, voilà. Ça, c'est à lui. Jeter la semence sur la terre. C'est facile de se rappeler, hein. Et ben, elle a été prophète. Elle a été prophète. C'est de lui qu'on tient qu'après moi, il y aura 111 papes. Parce que la prophétie de Saint Malachie, c'est un compagnon de Saint Bernard. C'est Saint Bernard, en fait. Et là, celui qui est, les deux qui sont maintenant, c'est le 110e et le 111e. Et oui, jusqu'à Saint-Bernard, il y en avait 153 papes. Maintenant, c'est 265e, 104e. 111 plus 153. Et après cette grande procession liée à Saint-Michel-Archange, 111, hein, il va y avoir encore un autre pape. C'est pas les derniers, il y aura un autre pape. Et ce pape-là est en affinité silencieuse, totale avec le grand roi. Avec le saint qui va de l'intérieur par la substance, le fondement et la subsistance universelle, soulever toutes les nations de la terre et établir le royaume de Dieu en chacune d'entre elles et en chacun sur toute la surface de la terre dans le monde nouveau. Et ben ça, Bernard, c'était des gars. Je me rappelle du père Emmanuel, à un moment, hein, quand il parlait de ça, il dit, moi je suis content, parce que la Sainte Vierge nous a dit à la maison, bon, je passe les détails, que ce pape-là, ben, il serait français. Il disait, je suppose que c'est moi. Arrête, tête de rire, toi. Je suppose que c'est moi. Mais mon frère, ce grand Nigo, ce grand souillon, lui tellement persuadé que c'était lui qui serait ce pape-là, qu'il est venu me voir à un moment donné, il dit, bien, Jacques, voilà, je voudrais bien que tu lises ce petit document que j'ai fait, ce sera ma première encyclique. Pour dire ces histoires de... ces histoires de grands monarques, de rois, tout ça, c'est... ça fait courir du monde, vous savez. Qu'est-ce que ça fait courir du monde? Pour du vent. C'est pas du tout comme ça. Le grand monarque, c'est... et le pape, tout ça, c'est la vocation de la France, hein, c'est la vocation du royaume de France. C'est notre vocation, nous on est le tabernacle hein, de cette apparition-là qui doit advenir. Qu'a prophétisé Saint Bernard. La vie intérieure, tu sais, qu'est-ce qui le caractérise, c'est, il est dit dans le livre des Proverbes qu'il n'existe, n'a jamais existé sur la terre d'homme plus humble que Moïse. Il aura tout de Moïse. Il aura tout d'Abraham. Il aura tout de Joseph. Il aura tout de Saint Jean. Il sera en infinité. De Saint Jean, vous savez ce qu'il va prendre? Parce que Saint Jean, lui, 53 ans après, l'Assomption de Marie, il a grandi d'abîme en abîme. De silence en silence, d'humilité en humilité, il a grandi, son cœur, le cœur sacré de Jésus, le cœur brûlant de Marie, le cœur brûlant de Marie-Joseph, Jésus, battait dans sa poitrine, resplendissait, s'élargissait dans les nuées hypostatiques de Jésus de plus en plus, jusqu'à ce que, dans son cœur, Saint Jean, c'est vraiment impressionnant. Le degré de charité qui était dans son cœur est arrivé à égalité d'intensité d'amour et charité que le Sacré-Cœur de Jésus et le Sacré-Cœur de Marie lorsqu'elle est rentrée dans l'Assomption. Il y a un degré de charité rentré. Et quand son cœur a été rentré en infinité, en complémentarité, sacerdotale, éternelle, victimale, silencieuse et humble, alors il a connu sa dormition à ce moment-là. Et ça, c'est objet de contemplation, on m'excuse, mais faut toucher ça et rentrer hein, et ben dans le cœur du grand monarque. Faut rentrer dans le cœur du grand monarque pour voir ce qu'il y a dedans quand même. Et puis il y a une charité, une fois qu'on peut, on fait la prière d'autorité la nuit pour ça, pour effacer toutes les distances, toutes les... pour qu'il y ait une proximité de plus en plus grande, avec ce qui se passe dans le cœur du grand roi, du grand saint de la terre. Parce que ici, il a l'amour en lui, qui est évidemment celui dont nous a breuvé jusqu'à l'ivresse. Parce qu'évidemment, pour que notre cœur puisse être flambant, silencieusement, de ce degré d'affinité de charité qui est le sien. Il aura tout de Moïse, il aura tout d'Abraham, tout de Joseph, tout de... Alors, autant dire que celui qui prétend pouvoir le rencontrer un jour est totalement dans l'erreur. Ça veut dire qu'il n'a strictement rien compris. C'est pour ça. pour ça que le Père Manuel disait « Laissez-les courir partout, puisque c'est moi. » Jean, qu'est-ce que t'en penses? Il y en a qu'un. À l'époque de Moïse, il y avait un seul homme sur la terre. C'était Moïse. Un seul. À l'époque d'Hérode le Grand, Hérode, il y avait un seul homme sur la terre, c'était Joseph. Un seul. Un seul. Et moi je crois que c'est un devoir pour nous d'être familiarisés avec ce qui palpite à l'intérieur de cette conjonction extraordinaire des quatre fleuves du paradis de l'Euphrate. Qui s'écoulent et font jaillir la fontaine merveilleuse du règne Sacré-Cœur. C'est l'humilité substantielle de Dieu, incarnée. Pas compliqué. C'est l'affinité parfaite avec l'intensité de la charité de Jésus dans son incarnation et de Marie dans son assomption. Les deux sont en affinité de complémenter. Il n'y en a qu'un. C'est pas compliqué, il n'y en a qu'un. Il faut se familiariser ça avec ce climat intérieur qui fait le diapason, la corde harmonique de la Jérusalem immaculée qui doit être conçue pour fleurir dans l'ouverture du cinquième sceau de l'Apocalypse. Faut qu'on soit se familiariser intérieurement à cet climat intérieur, ce nard, ce jasmin, cette rose, c'est ça, qui fait que, bon, tu sais, lui, il marche, hein, il le sait pas, hein, il le sait pas, mais il marche. Et tout le mal qui se fait dans la région disparaît. Et il ne le sait pas. Bon, je ne vais pas vous embêter plus longtemps, hein. Mais Saint-Bernard, il faut quand même mettre un petit point comme ça. Ça, c'est... Ah non, ça ne faut pas. On ne peut pas être étranger à Saint-Bernard. Sûrement pas. Alors c'est la troisième messe qu'on célèbre aujourd'hui, on la célèbre. Parce qu'on veut, à travers voler à l'intérieur de l'intimité profonde de ce qui fait les délices de la paternité vivante de Dieu dans tous les êtres humains et qui fait que Dieu, que la paternité vivante de Dieu trouve tous ses délices en venant demeurer à l'intérieur de chacun, à l'intérieur des enfants de Dieu qu'il a créés. Entrer jusqu'à ce fond-là, s'y établir, s'y s'émacharer et voir ses délices. Parce que le royaume de Dieu s'approche de nous. L'heure est arrivée. Et pour ça, pour s'y écouler merveilleusement, délicieusement, sans aucune entrave, pour s'y établir, pour s'y épanouir, pour être tout à fait nous-mêmes, ben on a les enfants qui passent devant nous et qui ont été créés pour faire donner son comble à ces délices que Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, avait d'être dans dans la nature humaine de Marie, dans la nature humaine de Jésus, dans la nature humaine de Jean, Joannick. Il met un comble, mais en intensité, en compréhension, en extension. Comme dit l'Apocalypse, jusqu'à ce que le nombre soit atteint. Et donc on est avec eux, on s'écoule comme eux. C'est pour ça que l'exaltation, l'exultation, la joie est tellement accomplie dans la nature humaine que forcément, la Pentecôte annoncée par Saint Bernard ne peut que exulter. Dans l'huile nouvelle. Et alors, c'est la troisième messe qu'on fait chaque jour avec le Saint-Père. Nous renonçons totalement à perdre notre temps comme Judas. Nous reniements de pierre. Nous y renonçons, mais totalement. Voilà, pour nous laisser investir, assumer. Par assimilation. Si un jour vous rencontrez le pape, le grand monarque, peu importe, tant mieux pour vous. Enfin, ou tant pis, je pense. Des âmes choisies, ben oui, par assimilation. Par assimilation. Nous aurons la même liberté que lui, la même simplicité, beauté, jeunesse, splendeur que lui, humilité. Mais c'est fou. Et du coup, notre corps spirituel, notre chair, notre sang, vous allez voir, sera une espèce de lieu extraordinaire d'aspiration. Et nous lui deviendrons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. Alors la troisième messe, elle est là pour ça, hein, pour qu'on aille se recueillir et faire le pèlerinage jusqu'au fond de ce qui fait l'allégresse de Dieu. Dans son dessein, où il nous crée, où il crée chaque être humain, mais chaque être angélique, vous vous rendez compte, c'est dingue. Cette allégresse-là, elle est la nôtre, on y s'y plonge, et on fait de l'expérience en plus. Et non, elle nous envahit, elle surabonde, elle se déploie. De sorte que tous les êtres de vie, tous les êtres humains, tous, viennent se désaltérer dans notre cœur. Tous les êtres humains n'ont de cesse que de venir se désaltérer dans notre cœur, dans le cœur des enfants de la terre, des âmes choisies, comme on dit. Ah, c'est le mois d'août. Quelqu'un d'entre vous n'a jamais lu ça, par exemple. Ben, il peut le lire.
C'est sur Roger.
Au moins, c'est pas compliqué. Hein. Et ben, la troisième messe, là, elle ouvre une porte. Dans l'acte pur, et pour nous y faire pénétrer dans une grâce qui est en affinité avec la grâce capitale. Nous sommes les enfants de l'Apocalypse. Notre corps, notre sang, notre âme, notre vie sur la terre, c'est l'Apocalypse du Saint-Esprit. Nous sommes la Bible du Père, nous sommes l'Évangile du Verbe de Dieu, et nous sommes l'Apocalypse du Saint-Esprit. C'est nous. Sans être vu par personne. Et encore moins par le démon. C'est pour ça qu'on célèbre la troisième messe tous les jours. Pour qu'on puisse circuler librement dans le saint des saints, du diamant lumineux, vivant, éclatant, surabondant, de splendeur d'immaculation, d'éternité palpitant dans le temps de la terre. Voilà ce que fait le Saint-Père. Chaque messe qu'on fait le soir. Pour tracer une ligne pure. Cette ligne pure, c'est la nouvelle et véritable mer rouge qui s'ouvre pour nous faire pénétrer dans le corps spirituel et le monde nouveau. Jusqu'à la toute puissance du règne du Sacré-Cœur. Jusqu'à ce que notre dame mission universelle et personnelle aboutit à son terme terminant. Ouais. Bien ça, c'est infaillible. C'est immaculé. Et c'est eucharistique. Et c'est séraphique aussi. Ensemble, en un. Adonai Erad, dans l'indivisibilité de l'un. Être en dehors de ça, dans les jours d'aujourd'hui, c'est être vraiment idiot. Comme disait un de mes pères spirituels, c'est complètement idiot. Complètement idiot. Ah. Embête à chaque fois, mais c'est la troisième messe. Souvent, il faut que je dise quelque chose, je sais pas pourquoi. Parce que il faut à chaque fois que ce soit encore plus fort, encore plus fort, encore plus subtil. Parce que chaque fois, chaque jour, c'est beaucoup plus redoutable. Fascinandum et tremendum. Ne vous inquiétez pas, on va finir par monter à l'hôtel. Pour y être projeté à l'intérieur de ce qu'il y a de plus élevé dans la grâce capitale. De l'union hypostatique désirée dans l'agneau. Dans l'agneau. Et de là redescendre de manière prodigieuse jusqu'au fond. De l'innocence. C'est aujourd'hui qu'on lit dans le chapitre 43 du prophète Ézéchiel, il me semble. Ça, je vous préviens, il faut connaître par cœur le chapitre 43 du prophète Ézéchiel. Ça, il faut le connaître par cœur. Parce que c'est... Hein ? Je sais plus, je regarderai, mais dans les vidéos sur le méchant, ça doit être le 18e, je crois. Je sais plus. Il faut que je vérifie. Le Seigneur a comblé de l'esprit d'intelligence Saint Bernard dans l'enseignement de la lumière, tel un fleuve à irriguer le peuple de Dieu tout entier.